Le thème de la prédication ce matin, c'est « Ne limite pas Dieu ». Ne limite pas Dieu. Qui peut lever la main et dire « Moi, je n'ai jamais limité Dieu ». Personne ne lève la main. Moi non plus. Et oui, on limite toujours Dieu pour une raison très simple. C'est que notre cerveau n'a pas la capacité d'appréhender quelque chose qui est sans limite. Ici-bas, partout, tout a une limite. Bon, on nous dit que l'univers est illimité. On pourrait envoyer un engin spatial qui avance tout droit, et bien, il avancerait toujours sans atteindre à un moment donné un mur, un truc où il n'y a plus rien. Mais ça, moi, je ne le vois pas, hein. Moi, je lève la tête, je vois le ciel. Même le ciel, j'ai l'impression qu'il n'est pas très grand. Voilà. Il y a juste ce que je vois là, avec mes yeux. Mais en fait, c'est bien plus vaste que ça. Et en fait, c'est pour ça que... C'est pour toutes ces raisons que, inconsciemment, on ne peut pas s'empêcher de limiter Dieu. On met aussi Dieu au rang d'un homme. Alors, ok, un homme super fort, on dirait aujourd'hui avec des super pouvoirs. Mais Dieu, c'est... Un homme avec des super-pouvoirs, c'est de la rigolade à côté de Dieu. Vous pouvez chercher le plus grand héros là, de Captain America, je ne sais pas quoi, là. Moi je ne m'y connais pas là-dedans. Vous pouvez choisir le plus fort, c'est qui le plus fort dans tout cela ? Superman ? Bon ok, si vous le dites, moi, je suis d'accord. Mais Superman, c'est un rigolo. Un rigolo à côté de Dieu. Bah, déjà, il n'existe pas. Alors que Dieu existe, c'est déjà une première différence. On pourrait prendre plein de textes dans les Écritures pour montrer cela, que Dieu est illimité. Et j'ai choisi, moi, d'aller dans un évangile. Vous savez lequel ? Et voilà, j'en étais sûr que vous allez dire ça. Eh bien non, c'est dans l'évangile de Jean. Voilà, ça vous apprendra. Et dans l'évangile de Jean, il nous est parlé d'une femme. Attends. Est-ce que vous avez l'exemple d'une femme dans l'évangile de Jean ? Au début de l'évangile de Jean ? Non. Ça aurait pu. Elle était là pour le miracle des noces de Cana. Ah, vous l'avez vu ? Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Oui, d'ailleurs, il faut que je me décale, moi, parce que je vous bouche la vue, là. Tiens-moi ça 2 minutes. On va se faire un peu de place. Alors, vous ne trouvez pas ? Bon, allez. C'est la femme samaritaine. La femme samaritaine. On va lire une partie du récit à chaque fois, puis on s'arrêtera pour commenter ce qui se passe entre cette femme. Une rencontre extraordinaire, une rencontre inimaginable à cette époque-là. Entre une femme samaritaine et Jésus. Une rencontre improbable. Jean 4, 6 à 11, on commence le début de la lecture. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui est juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Entre parenthèses, les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Première chose qui nous donne de limiter Dieu, c'est le fait que nous raisonnons humainement. Nos raisonnements humains limitent Dieu. Première chose que je constate, c'est que cette femme analyse la situation d'une manière humaine. Elle dit, oh, lui, elle regarde Jésus, qu'est-ce qu'elle voit ? au lieu de voir le Fils de Dieu, elle voit un juif. On pourrait dire même elle voit un homme. Parce que là, il y avait deux raisons pour lesquelles Jésus ne devait même pas parler à cette femme. La première, elle est donnée dans le texte. Les juifs et samaritains, ils ne pouvaient pas se voir. C'est un peu comme les Camerounais et les Ivoiriens. Ou les Parisiens et les Marseillais. Ils ne pouvaient pas se voir, mais c'était pire. Parce que là, tu n'as vraiment pas le droit. Et puis aussi, c'était pas convenable à un homme de parler à une femme comme ça seule. Ça ne se faisait pas. Les temps ont bien changé. Mais en fait, Dieu n'est ni juif, ni grec, ni français, ni africain, ni quoi que ce soit d'autre. Il est esprit, il est Dieu. Il n'est pas de cette terre. Ici, bien sûr, c'était compliqué pour cette femme parce qu'elle a en face de lui Dieu incarné dans son fils Jésus. Donc elle voit une enveloppe humaine. Donc forcément, elle ne peut pas dire « Oh, c'est le fils de Dieu que j'ai en face de moi ». Elle va le comprendre au fur et à mesure. Ce que j'aimerais vous dire par rapport à ça, c'est que Dieu est au-dessus des lois établies par les hommes. Il est même au-dessus des lois qu'il a établies lui. Je vous renvoie aux fameuses discussions avec les pharisiens sur le sabbat, etc. Dieu montre qu'il est au-dessus des lois qu'il a établies. Une loi ne limite pas Dieu. Vous comprenez ça? Même une loi qu'il a édictée ne le limite pas. Il en fait ce qu'il veut. Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus des lois climatiques. Les lois climatiques, c'est lui. C'est lui qui les a établies. La formation d'un orage dans le ciel, d'un éclair, c'est lui qui l'a établi. Pourtant, il est capable de dire à l'orage, « Tu t'arrêtes !» Toutes les conditions physiques sont réunies pour qu'il y ait un orage, mais lui dit, « Non, tu t'arrêtes !» C'est lui qui a établi ses lois, mais il est capable, justement parce que c'est lui qui les a établies, de les dominer. Il est capable de parler à un corps malade et de le guérir. Pourtant, physiquement, tous les symptômes sont là, ce corps est malade. Mais Jésus dit une parole et ce corps n'est plus malade. En fait, dans la théologie, ce caractère de Dieu, on le nomme l'omnipotence. Dieu est au-dessus des lois établies par lui-même ou par les hommes, il est omnipotent. Omnipotent, ça veut dire il a tout pouvoir. Omni, ça veut dire tout, la plénitude, et potent, c'est le pouvoir. Il est omnipotent. Deuxième remarque que lui fait cette femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. En fait, Jésus est en train de lui parler d'une eau qu'on ne va pas puiser au fond d'un puits. Donc il a besoin ni d'une corde, ni d'un seau. Dieu est esprit. Ce qu'il nous donne, c'est spirituel. Vous comprenez ça? On le limite aussi. Voyez les disciples et les contemporains de Jésus. Ils ont été déçus quand Jésus a été crucifié. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient tous qu'il était venu les libérer de César. Raisonnement humain terrestre. On nous a dit qu'un sauveur allait venir. Il va nous sauver de quoi? Il va nous sauver du courroux de César. Mais non, mais Jésus n'est pas venu faire de la politique. Jésus, c'est un être spirituel. Il est venu s'occuper de choses spirituelles. Que ce soit César ou machin qui domine le pays, il s'en moque. Nous, on est préoccupés. Oh, on va changer de président, qu'est-ce qui va se passer? On est préoccupés par tout ça. Mais Dieu, il s'en moque. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qui est spirituel. Et quand il parle de l'eau, il ne parle pas de l'eau qu'on boit. Il parle d'une source illimitée, celle qui jaillit du cœur de Dieu et qui nous apporte toutes ces choses, guérison, la parole, l'esprit, toutes ces choses. C'est une eau spirituelle. La corde, le seau, c'est l'image des moyens humains qu'on va chercher dans des situations spirituelles. On va chercher des solutions humaines. Mais là, on est sûr d'échouer. Et Je le dis souvent aux personnes lorsqu'elles rencontrent des difficultés, notamment dans les couples, dans les relations entre parents et enfants, parfois des relations entre les chrétiens dans l'Église. Ils sont en train d'essayer de résoudre ça d'une manière humaine. Mais c'est spirituel. Parce que le diable dont on parlait tout à l'heure, lui, il vient pour diviser, il vient pour détruire. Tout ce que Dieu construit, lui, il veut le détruire. Dieu construit un couple, le diable, il veut le détruire. Dieu construit une relation entre un parent et un enfant adolescent. Et à l'adolescence, l'adolescent commence à se rebeller. Et le diable utilise ça pour détruire la relation. Dans l'église, il va y avoir un mot, parfois un mot, juste un mot maladroit. On l'a entendu, le Seigneur a exhorté quelqu'un par rapport à ça. Un mot maladroit ou une prédication qu'on n'a pas compris ou qui nous a un peu trop bousculé et on part en disant « c'est quoi cette église ?» Parce qu'on raisonne humainement. Mais le problème, il est spirituel, donc raisonnons d'une manière spirituelle. On va plus loin dans la lecture, Jean 4, 12 à 15. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. On limite Dieu quand on le compare. Deuxième chose que fait cette femme, la première chose, c'est ses raisonnements humains. Deuxième chose, elle compare Jésus à qui ? À Jacob. Là, encore une fois, c'est comme Jésus Superman, hein, il n'y a pas photo. Mais en fait, chacun a sa place. Jacob, il a fait ce qu'il avait à faire en son temps, et il a fait des puits pour ses troupeaux. Il avait de nombreux troupeaux, il avait 12 fils. Je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que c'était le campement chez Jacob, mais ça devait être assez impressionnant. Et il fallait des puits. Il avait construit des puits, et c'était nécessaire, et il portait de l'eau. Mais est-ce qu'on parle de la même chose quand on parle de l'eau que Dieu vient nous donner ? Non, on l'a vu tout à l'heure. Jacob a donné de l'eau à boire, mais c'est une source qui n'est pas inépuisable. On peut avoir un puits, au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau. Jésus, lui, nous donne sa parole, son esprit, et c'est inépuisable. Amen. C'est quelque chose qui va nous rassasier tout le temps et qui va combler notre soif en permanence. Et là, encore une fois, cette pauvre femme qui est limitée dans son appréhension, elle n'a pas compris qui elle a en face d'elle, elle dit, ouais, chouette, j'aimerais bien cette eau. Pourquoi elle veut l'eau, elle ? Elle ne veut pas l'eau pour satisfaire son âme. Elle veut l'eau pour ne plus avoir à l'épuiser au puits. Et nous, on se trompe avec Dieu, on voudrait avoir Dieu pour ne plus faire ci, ne plus faire ça. Mais Dieu n'est pas venu nous débarrasser de nos tâches terrestres, ce qu'on a à faire ici-bas sur terre. Ce n'est pas parce que tu vas donner ta vie à Dieu que ça y est, tu n'as plus besoin d'aller travailler pour gagner de l'argent et vivre ta vie. Tu n'as plus besoin de te faire à manger maintenant que tu connais Dieu. Tu pries et il y a une assiette qui arrive, et pouf, elle se pose sur ta table. Mais en fait, je plaisante, mais des fois Dieu il, c'est un peu le, vous savez, le distributeur automatique. Hein. J'ai besoin de ça, ping. Bon alors, qu'est-ce que tu fais, Seigneur ? Il n'y a rien qui tombe, là. Mais non, mais Dieu, c'est pas ça. Dieu est venu combler notre être intérieur. Si vous demandez pardon, si vous appuyez sur le bouton pour dire Seigneur, pardonne mes péchés, vous pouvez être sûr que le pardon il va tomber. Si vous appuyez sur le bouton pour dire Seigneur, remplis ma vie de ton esprit, vous pouvez croire que le Saint-Esprit va être communiqué. Amen. Dieu est incomparable. Ne le comparons pas. Il est incomparable. Amen. Il vient nous placer au-dessus des contraintes de cette vie. En fait, quand on se donne à lui, On continue d'avoir les contraintes d'un être humain. On peut tomber malade aussi. Oh, il peut nous arriver des drames, des catastrophes, même si on est chrétien. Mais on est au-dessus de tout cela. Dieu nous donne de pouvoir être au-dessus. Jean 4, versets 16 à 19, on va encore un peu plus loin. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Ça y est, commence à se rendre compte que le gars là, au bord du puits, c'est pas tout à fait un être comme les autres. Nous limitons Dieu à une connaissance restreinte des choses. Or Dieu, on va voir un autre omni, Dieu est omniscient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Omni, c'est tout. Scient, ça veut dire le savoir. Il sait tout. Dieu sait tout. Pouah ! Ça, ça craint, ça. Ah, oh, Dieu sait tout. Oh. Mince. Non, mais c'est super, au contraire. Rien n'est caché devant lui. Rien n'est caché devant lui. Tout est dévoilé et à nu devant lui. C'est la parole qui le dit. Il connaît tout de toi. Il n'y a rien que tu peux cacher. Tu peux cacher à tes enfants, à ton mari, à tes parents. Tu peux cacher aux personnes les plus proches de toi. Ils peuvent ne rien savoir sur une partie de ta vie. C'est vrai ou pas? Mais devant Dieu, tu ne peux rien cacher. Et ça, on a du mal. On arrive à faire des choses quand on est tout seul. C'est fou, hein? On se dit, bon, ben, je suis tout seul, personne ne me voit. Mais non. Non, non, Dieu te voit, il est tout le temps là. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la manière dont le Seigneur s'adresse à cette femme est extraordinaire. D'abord, compliqué la vie de cette femme. Hein? Compliqué. Alors le texte ne nous dit pas, est-ce qu'elle a été plusieurs fois veuve? Est-ce qu'elle a divorcé plusieurs fois? En ayant eu autant de maris, c'est quoi qui s'est passé? Donc en tous les cas, ce qui est sûr, cette femme, elle a dû souffrir. Que ce soit le veuvage ou le divorce, c'est deux choses qui ne nous laissent pas indemnes. On est d'accord. Donc cette femme a souffert. Et là maintenant, en plus, après on peut la comprendre. C'est pour ça que j'ai tendance à penser, ou quoi que ça peut être le veuvage aussi. Hein. Peut-être elle se dit, faut plus que je me marie, quoi. Ça porte malheur. Et donc au bout d'un moment, elle est avec quelqu'un, mais elle n'est pas mariée. Et Jésus lui fait remarquer. Parce qu'on sait, selon les Écritures, que être en concubinage, vivre avec quelqu'un dans l'intimité sans être marié, Dieu ne l'approuve pas. Et il aurait pu lui dire, eh bien, puisque tu es en concubinage, la discussion s'arrête entre nous, moi je suis saint, toi tu es une pauvre pécheresse. Mais non, 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 il ne lui fait pas de reproche, il ne la juge pas. Si Dieu n'approuve pas, il ne juge pas. On le voit dans le récit de la femme adultère. Là aussi, la loi de Moïse dit qu'il faut la lapider. Mais Dieu est au-dessus des lois qu'il a édictées. Il dit, ben non, là, vous n'allez pas la lapider. Et comment il fait pour empêcher la lapidation? Il dit, ben, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et là, tout le monde s'en va. Mais pour autant, Jésus va parler avec cette femme, il va lui dire, je ne te juge pas. Et c'est tout, il s'arrête là. Allô? Nathéo, Linois, vous n'avez pas la question que je viens de poser? C'est quoi? Donc qu'est-ce que dit Jésus à la femme adultère? Je ne te juge pas, les autres t'ont jugé, moi je ne te juge pas. Et ensuite, va et ne pêche plus. Donc le fait que Jésus ne nous juge pas n'est pas un encouragement à continuer de pécher. C'est juste la manifestation de sa grâce. Dieu est omniscient. Vous vous en rappellerez ça ? Les enfants, les ados, les jeunes, les plus vieux. Je me parle à moi-même. Dieu nous voit tout le temps. Et ce n'est pas pour nous juger, parce que souvent on dit « Waouh, Dieu me voit tout le temps, oh la honte !» Il voit même les pensées, « Oh non !» Mais vous pouvez penser aussi que c'est génial de savoir que Dieu, il est toujours là pour vous protéger. Dieu voit quand vous êtes en danger. Dieu voit quand vous êtes malheureux, Dieu voit, etc. On pourrait allonger la liste. Donc Dieu voit tout, c'est pas seulement « Waouh, ça me fout la trouille », c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez souffrir à l'intérieur de vous et avoir quelqu'un dans votre propre foyer qui ne voit pas votre souffrance. Oui ou non ? Mais sachez que Dieu voit toujours votre souffrance. Et il n'y est pas indifférent. Dieu est omniprésent. Amen. Dieu est omniscient, pardon. Omniprésent, c'est le dernier point. Jacques 4, 20, 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, elle parle pour les Samaritains qui adorent sur une montagne et les Juifs qui vont adorer à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, pardon, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Là, on pourrait croire que Jésus a dit, bon, les Samaritains, vous êtes des nuls. Nous, les Juifs... Non, il va plus loin. Ok, les Juifs ont une meilleure connaissance, ils sont au bon endroit, etc. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Le problème de cette femme, c'est qu'elle imite Dieu à un lieu. Nous limitons Dieu à un lieu. Il y a des gens, c'est étonnant, hein, quand je parle avec certaines personnes, me disent « Ah, mais moi, j'aime bien rentrer dans les églises. Parce que quand je rentre dans une église, je sens une atmosphère de paix et je peux parler à Dieu. » Bon, c'est bien. Je préfère entendre ça que quelqu'un qui dit « Moi, Dieu, j'en ai rien à faire. » Mais que le Seigneur bénisse cette personne et lui apprenne que Dieu n'est pas limité à un endroit. Il n'y a pas besoin d'aller dans une église pour prier. Alors venez à l'église. Hein. Ce n'est pas un pasteur qui va vous dire de ne pas le faire. Mais vous pouvez prier chez vous. Vous pouvez prier n'importe où. Parce que Dieu, on l'a vu, il est partout. Dieu est omniprésent. Voilà la troisième caractéristique. Omnipotent, omniscient, omniprésent. Et incomparable, on l'a vu aussi. Il est omniprésent, il est partout. On ne peut pas limiter un lieu, on ne peut pas limiter même à une horaire. Là, on m'a envoyé un lien YouTube cette semaine. Quelqu'un m'envoie un lien YouTube. Qu'est-ce que tu penses de ça, Luc ? Un pasteur qui explique sur YouTube que l'heure la plus importante, l'heure où Dieu est le plus à l'écoute, c'est 3 heures du matin. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai vu le titre, j'ai pas regardé la vidéo. J'ai répondu à cette personne, j'ai dit, mais c'est des foutaises. C'est des foutaises, n'écoute même pas ça. Alors comment on fait avec le décalage horaire, ça, expliquez-moi un peu. Hein. Ou alors Dieu, il se rend disponible à 3 heures en suivant les faisceaux sur toute la terre, comme ça. Mais c'est incroyable ce que l'homme peut arriver à se mettre dans la tête pour limiter Dieu. J'ai pas été étonné de ça parce qu'on me l'a dit une fois. Je me rappelle quand j'étais pasteur à Rodez, on a fait une soirée de prière. On a commencé à prier, il était 8h ou 8h30, je me rappelle plus. On a terminé, il était 11h30. On a prié pendant 3 heures ensemble. On a vécu des moments extraordinaires. Puis au bout d'un moment, la réunion s'est arrêtée. On s'était pas fixé d'heure, elle s'est arrêtée d'elle-même. Puis les gens sont partis, on a discuté un peu. Puis un gars, il me dit, ah, mais c'est dommage qu'on n'ait pas prié jusqu'à 2, 3 heures du matin, parce que c'est là que Dieu se révèle. Je dis, ben, il ne se serait jamais révélé à moi, hein, parce que moi, ça ne m'est jamais arrivé. Si, ça, je ne regarde pas l'heure quand je prie la nuit, ça m'arrive de prier la nuit quand je me réveille, je prie le Seigneur. Mais je ne me dis pas, ah, il faut que je prie là, c'est maintenant là, c'est maintenant. Mais vous avez des adeptes de ce genre de théorie, c'est fou. Hein, comment on peut limiter Dieu alors que Dieu est illimité. Amen. On ne peut pas le limiter à un lieu. On ne peut pas le limiter à un horaire. On ne peut pas le limiter à une religion. Alors, faites bien attention à ce que je viens de dire, c'est pas toutes les religions sont bonnes. Mais c'est pas parce que je suis évangélique ou chrétien ou charismatique ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça qui est intéressant. On ne peut pas le limiter à une personne. Il y a des gens, ils pensent qu'ils peuvent connaître Dieu que s'ils vont dans l'église de tel ou tel pasteur. Ou s'ils écoutent les prédications sur YouTube de tel ou tel pasteur, il n'y a que là. Il y en a qui pensent que c'est lié à un rituel. Il faut qu'ils allument une bougie, il faut que ceci ou que cela. Foutaise. Dieu est toujours là. Il est même là, je suis aumônier de prison, je vais aller à la prison de Muret cet après-midi pour prêcher la parole. Dans les cellules des pires mecs de la terre, Dieu est là. Il est là. Il est partout. Amen. Jésus, son fils, a déclaré « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». On conclut ces moments en finissant les deux derniers versets que je voulais lire avec nous. On ne finit pas totalement le récit, mais vous pourrez le lire, hein, Jean chapitre 4, les versets 25-26. La femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Elle est fine, hein, la femme adultère. Au début, elle est partie de zéro, elle était à ras les pâquerettes. Et puis petit à petit, et là, elle commence à se dire, elle commence à aborder la question du Messie. Et là, Jésus, il répond d'une manière la plus claire qui soit, je le suis, moi, qui te parle. Et c'est étonnant, hein, parce que c'est le début du ministère de Jésus. Et au début du ministère de Jésus, souvenez-vous, Jésus il disait aux gens, chut, ne dites pas que je vous ai guéri. Il ne voulait pas qu'on sache tout de suite qu'il était le Messie parce qu'il savait qu'il allait se faire. Donc il a attendu. Mais là, à cette femme, il lui dit. Je le suis, moi qui te parle. J'aimerais vous amener à la croix en terminant. Pourquoi on peut s'appuyer sur cette promesse, Dieu est illimité, il est capable de tout. Parce que la croix est là et à la croix, Jésus a dit tout. T'es accompli. Tout est accompli. Ça veut dire qu'il n'y a rien à ajouter. Donc là aussi, c'est pareil. Nous, on veut toujours que le Seigneur il fasse quelque chose en plus. Mais tout est fait. C'est à nous de nous saisir. C'est comme s'il y a un arbre là avec tous les fruits dont on a besoin pour toute notre vie. Et on dit, il me faut un autre arbre. Non, mais tu as tout là. Serre-toi. Prends. Ne limitons pas l'œuvre de la croix. La pire des choses, c'est de limiter le salut. Ah, lui, il ne peut pas être sauvé. Ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas être pardonné avec ce que j'ai fait, mais c'est impossible. Dieu peut me pardonner. Quoi ? Dieu me pardonner ? Mais ça fait 1000 fois que je lui demande pardon pour le même péché. Mais non, mais ce n'est pas possible. Personne ici ne s'est jamais posé ce genre de questions. Mais on limite Dieu, en fait. On limite Dieu. Le prophète Ésaïe dit « Dieu ne se lasse pas de pardonner ». Jésus parle avec l'apôtre Pierre. Pierre, il est tout fier de dire « Oh, moi, je peux pardonner 7 fois ». Parce que déjà, normalement, dans la loi, quand tu avais pardonné 3 fois, tu étais… Et lui, il dit 7 fois. En plus, c'est le chiffre de la plénitude. Alors, il est tout content. Et Jésus, il dit « Ben non, c'est pas 7 fois ». C'est 70 fois cette fois, donc c'est la plénitude de la plénitude, en fait. Et en fait, et si Jésus dit à Pierre que c'est ça qu'il faut faire, lui, il ne le fait pas, peut-être. Hein, on est d'accord ? Jésus dit à Pierre, faut 70 fois, mais moi, non. Moi, au bout de 3 fois, c'est terminé. Mais non, si Jésus a dit à Pierre que c'est comme ça que ça marche, c'est parce que lui, il le fait. Et tu peux avoir l'assurance que tu es pardonné à chaque fois que tu demandes pardon, même si c'est la millième fois que tu demandes pardon pour la même chose. Ne me demandez pas de vous expliquer. C'est comme ça, point barre. Moi, je trouve ça injuste, pas normal. Parce que moi, au bout d'un certain moment, la personne me fait la même crasse une dizaine de fois. Au bout d'un moment, je lui dis, eh ben, débrouille-toi, c'est fini maintenant. C'est vrai ou pas? On est comme ça, nous. On a nos limites. Mais Dieu n'a pas de limites. Amen. Il n'y a pas de limite. Quoi que tu aies commis, tu peux être sauvé. Amen. Son pardon est illimité. On finit avec cette diapo. Pardon illimité, grâce illimitée. Vous savez ce que c'est la grâce, hein ? C'est recevoir quelque chose qu'on n'a pas mérité. Et amour illimité. Amen. Grâce illimitée, amour illimité, pardon illimité. Est-ce qu'on peut prier quelques instants ? Est-ce qu'on peut prier ? On se met en prière, chacun ? Allez, on prend les petits juste 2 minutes là, prenez-les dans les bras, qu'on ait ce temps de prière. Et on va se tenir devant Dieu. On va se tenir devant Dieu. J'aimerais que vous puissiez considérer ce que vous vivez en ce moment. Alors si tout va bien pour vous, vous n'avez pas de problème, ben, vous irez pointer au registre des êtres exceptionnels. Mais pour le problème que tu rencontres, et même les enfants, je sais qu'ils peuvent avoir des soucis, des fardeaux, des problèmes sur leur cœur, le Seigneur te dit ce matin, il est illimité. Il est illimité. Il va intervenir dans ta situation. Soit il va régler le problème, soit il va te donner la force de vivre avec ce problème pendant le temps qu'il va le régler. Parce que parfois, là aussi, on voudrait un distributeur automatique, hein, je reviens à l'image, on voudrait qu'à partir du moment où on a prié, tout de suite, le Seigneur réponde. Mais des fois, le Seigneur prend le temps parce que la difficulté par laquelle on passe est un moyen qu'il a choisi pour nous apprendre quelque chose, pour nous faire grandir. Donc si on cherche à éviter cette épreuve, on se trompe. C'est-à-dire qu'on refuse l'école de Dieu. Alors, je ne dis pas que toutes les épreuves sont pour ça, mais parfois c'est ça. Donc, je n'ai pas de réponse pour chacun individuellement. C'est à vous de trouver la réponse en parlant avec Dieu. Mais en tous les cas, quelle que soit ta difficulté, j'aimerais que tu puisses dire sur cette difficulté, Dieu n'est pas limité. Ce que je vis, c'est galère, mais ce n'est pas impossible pour Dieu de venir m'aider. Amen. Est-ce que tu peux le dire dans ton cœur ce matin? Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Dieu n'est pas limité par rapport à ce problème qui est devant moi. Moi, je veux dire aussi, avec vous tous, Dieu n'est pas limité pour amener cette ville de l'île Jourdain et ses environs à la foi. Dieu n'est pas limité. Amen. Alors qu'on est un petit nombre réunis, Dieu se réjouit ce matin. Dieu se réjouit parce que les ténèbres reculent. À chaque fois que nous nous réunissons, les chrétiens, chaque fois que nous sommes à genoux dans nos chambres en train de prier, les ténèbres reculent. Amen. Les limites de Dieu, l'absence de limites de Dieu va faire en sorte que tout ce qui est limité, et même les puissances mauvaises sont limitées. Seul Dieu est illimité. Amen. Et les puissances mauvaises vont reculer sur cette ville. Amen. Les puissances mauvaises, l'occultisme, les choses cachées, les énergéticiens, toutes ces choses-là, ça recule parce que Dieu n'est pas limité. Amen. À Dieu soit la gloire. Seigneur, merci pour ces moments. Merci de bénir chaque personne. Tu as voulu parler individuellement à chacun, chacune ce matin. Et je crois, Seigneur, que tu as pu le faire. Et je prie maintenant que cette parole soit reçue au plus profond des cœurs et qu'elle ne parte pas dans l'oubli. Elles ne partent pas dans l'oubli. Seigneur, s'il te plaît, nous sommes des êtres oublieux. Seigneur, qu'il ne soit pas ainsi. Et que devant les difficultés qui vont se présenter dans les heures, les jours à venir, les semaines à venir, puissions nous rappeler que tu es sans limite. Que nous puissions arrêter de te limiter. C'est notre désir, Seigneur. Alors viens, remplis-nous ton esprit pour nous donner la conscience que tu es omniprésent, omnipotent, omniscient, incomparable. Amen. À Dieu soit la gloire.